Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Un fils ne voit pas sa mère avec les yeux de tout le monde, il est même souvent le seul à voir sa beauté, disait l'écrivain allemand Friedrich Dürrenmatt. Elle est souvent la première femme qui compte dans la vie d'un homme, une relation unique qui fait écrire à Romain Gary avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. Comment expliquer ce lien si fort, fondateur et fondamental dans la vie d'un homme, ce lien célébré dans la littérature, le cinéma, la chanson, les séries, la peinture, de Proust à Albert Cohen, d'Almodovar à Allô Maman Bobo de Souchon. Alors ce duo universel, mère-fils, quelle est la distance idéale? Cette bonne distance qui n'étouffe pas et qui permet à l'enfant et au futur adulte de s'épanouir. Comment cette relation influence-t-elle la vie affective des fils? Quelles sont les conséquences à l'âge adulte de cet amour inconditionnel maternel ou au contraire de son absence? Nos expertes vous éclairent et attendent vos appels et vos témoignages au 01 45 24 7000 et sur WhatsApp, sur l'appli et le site France Inter, sans oublier la page Facebook de l'émission, une émission dédiée à ma chère mère et à celle de Nicolas Demorand. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Quel est le menu de votre chronique Ma vie de parent?
Eh bien, on va se demander si face à leur fils, les pères peuvent être des mères comme les autres.
À tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Mère vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Je crois que pleurer sa mère, c'est pleurer son enfance. L'homme veut son enfance, veut la revoir, veut la retrouver. Et s'il aime davantage sa mère, à mesure qu'il avance en âge, c'est justement parce que sa mère sait son enfance. J'ai été un enfant, je ne le suis plus et je n'en reviens pas. Et je crois que l'enfant meurt en même temps que sa mère. Par sa mort, me voici soudain de l'enfance à la vieillesse passée. Avec elle, vous comprenez, je n'avais pas besoin de faire l'adulte. Et maintenant, c'est ce qui m'attend. Et je n'ai plus personne pour me gronder si je mange trop, ou si je mange trop vite, ou si je lis trop avant dans la nuit. Et voilà, je n'ai plus 10 ans, parce que je n'ai plus ma mère. Et combien de fois je regrette de ne plus pouvoir jouer avec des décalcomanies dans la chambre chaude, près du rond de la lampe à pétrole. Et sous la garde de ma mère.
Albert Cohen sur France Inter en 1969. Bonjour Sophie Galabru.
Bonjour.
Vous êtes agrégée docteur en philosophie, professeure et conférencière et vous avez publié chez Alary Éditions Faire famille, une philosophie du lien. Bonjour Virginie Méglet.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychanalyste et vous avez notamment publié chez Erol Entre mère et fils, une histoire d'amour et de désir. Bonjour Nicole Prieur.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et thérapeute et vous avez notamment publié chez Pocket Les trahisons nécessaires. Que vous inspire cet extrait d'Albert Cohen, Sophie Galabru?
Moi, quand je pense à la relation mère-fils, c'est vrai que j'entends tout de suite Romain Gary, mais comme Albert Cohen, ce sont des écrivains très emprunts, très, très marqués durablement par une mère et une relation qui a l'air d'être une relation très fusionnelle, à tel point que la part d'enfance est effectivement liée à cette femme.
Nicole Prieur.
Oui, c'est pas forcément fusionnel, mais en tous les cas, il y a quelque chose d'un écho, j'ai envie de dire, presque existentiel, qui se passe entre la mère et le fils, qui est effectivement tout à fait particulier. Et ce que j'ai été très touchée par ce que disait Albert Cohen, parce qu'effectivement, je n'avais plus besoin de faire l'adulte. C'est-à-dire, c'est vraiment cette part d'enfance qui est en nous, que j'appelle, moi, c'est les eaux vives de notre enfance, c'est ce qui nourrit le désir de notre être adulte. Et donc, c'est vraiment, la mère, c'est quelque part quelque chose, c'est un personnage d'abord très protecteur. C'est vraiment l'image que les hommes que j'ai pu rencontrer en thérapie, pendant ma longue expérience de psy, c'est vraiment la figure ultra protectrice, qui est capable aussi de l'aimer, cet homme-là, et ce petit garçon, d'abord, ce petit garçon et cet homme-là, d'un amour inconditionnel. Je veux dire, les bras d'une mère, le regard, je vous vois, Ali.
J'acquiesce.
Vous acquiescez.
Et moi, Julien Bisson aussi.
Voilà, les bras d'une mère envers un garçon, on pourra travailler, réfléchir, hein, pourquoi. Mais j'en viens, ils sont là, ils vous entourent. Et les mamans, allô bobo, j'ai envie de dire, moi encore une fois, chez des hommes que j'ai pu rencontrer de 50 ans dans mes thérapies, c'était là, c'était vers la mère qu'on allait se tendre.
Et je précise que vous êtes la mère de 3 garçons.
Exactement. Et en disant « Allô maman Bobo », j'en entends un de 50 ans qui gère merveilleusement sa vie, mais qui vient dans mon creux quand il en a besoin, métaphoriquement.
Hein, exactement. Virginie Méglet.
C'est un témoignage qui peut être valable pour tout le monde, mais quand même plus particulièrement entre la relation effectivement garçon et fils, enfin garçon-fils et mère, en ce sens que pour un garçon, il y a une peur inconsciente de perdre sa mère, de perdre sa mère. Et donc ça dit chez Albert Cohen, son impossibilité assez magnifique, mais impossibilité à grandir, la difficulté à s'en détacher. Et chez lui, il y a quelque chose moi qui m'avait frappé, c'est qu'en fait tout en vouant cet amour extraordinaire à sa mère, il n'a pas assisté à son enterrement. Et si je dis ça, c'est que même cette, quand il dit elle meurt, quand elle meurt, on perd son enfance, mais il y a une façon de ne pas assister à l'enterrement, qui est une façon aussi de ne pas pouvoir s'en détacher et donc de rester éternellement ce tout petit enfant. Mais effectivement, c'est d'une façon c'est dans l'inconscient dont je parle. Je veux dire, c'est pas une volonté de ne pas grandir.
Alors la mère fait souvent figure de coupable idéale. Elle serait responsable de nos névroses, de nos échecs, de nos chagrins. Et quand elle a un fils, que de reproches sont faits à leur mère? Trop proche, trop étouffant, trop intrusive, au contraire trop distante, trop froide, Nicole Prieur.
Oui, je pense que ce qui est, encore une fois, à partir de mon expérience, ce que j'ai pu observer, de mère hein, et de thérapeute, ce que j'ai pu observer, c'est que finalement, c'est une relation qui ne cesse de se transformer. C'est vrai que dans la prime enfance, la mère, c'est la mère hyper protectrice, en général. Hein, encore une fois, on ne parle pas de tous les cas, mais voilà. Mais qu'au moment de l'adolescence, il y a une rupture un petit peu. Et il y a, donc, le lien se transforme et se module toujours autour d'un axe attachement-détachement. À l'adolescence, le garçon, pour s'attacher à d'autres figures que celles de la mère, des amoureuses, etc., doit couper, se séparer. Hein. Et cette séparation-là, encore une fois, alors là, je vais faire part de mon expérience personnelle. À partir du moment où ils allaient au lycée, au collège, je ne pouvais plus leur faire de bisous. Donc, voilà. Donc, effectivement, et ensuite, ça va se redéfinir quand, par exemple, nos garçons deviennent pères à leur tour. Donc, c'est une relation qui se cherche constamment entre attachement, détachement, proximité et séparation. Ça se cherche.
Sophie Galabru, vous avez écrit une philosophie des liens. Quelle est la nature du lien particulier entre une mère et un fils?
J'étais en train de réfléchir au fait qu'il y a donc le lien nourricier, ce lien de protection et de soin, et que certaines femmes parfois n'ont pas ou ne développent pas, ne veulent pas développer. Et on a des exemples aussi dans la littérature ou même la fiction. Je pense au film de Xavier Dolan, Mamie, ou Comment j'ai tué ma mère, ou la vipère au poing d'Hervé Bazin, où il y a des femmes aussi qui sont dans l'incapacité, le rejet même de ce rôle nourricier, ce qui tend à prouver qu'il n'y a rien d'instinctif et de naturel, mais que c'est aussi une forme de volonté de s'investir dans ce lien et d'accepter de pouvoir donner de soi de cette façon-là aussi. Et à mon avis, c'est un lien qui peut être soit, s'il est accepté, assumé, magnifique, soit qui peut être aussi un lien regretté parfois par certaines femmes qui n'ont pas envie de donner d'elles-mêmes ou de leur temps, parce que c'est aussi beaucoup de temps. Donc c'est un lien qui se construit. Et d'ailleurs, tout n'est pas joué d'avance, c'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir eu un désir profond et puis trouver le chemin de son désir et le soin pour son enfant au fur et à mesure aussi.
Virginie Méglet.
Moi, je pense qu'effectivement, c'est un lien qui se construit, mais qui a quand même cette particularité qui fait que c'est les mères en général. Moi, j'ai beaucoup de mères qui ont pu témoigner qu'elles n'avaient pas pour leur garçon la même attraction primaire qu'elles avaient pour une fille, et que ce lien effectivement se construit aussi sur le besoin de se séparer et la peur de se séparer. Et c'est ce qui fait que certaines mères dans les premiers temps ont pu témoigner qu'elles avaient comme un rejet, parce qu'effectivement elles se retrouvaient pas dans la figure du petit garçon comme elles pouvaient se retrouver dans la figure d'une petite fille. Et donc il y avait vraiment une affaire d'apprivoiser l'autre, et qui chez le garçon aussi, chez le fils, sentait que contrairement à une fille, il est différent de sa mère, et donc d'une certaine façon, contrairement à la fille, qui la fille pourra dire je suis maman, je deviendrai maman, le petit garçon dans cette différence, souvent finalement, a peur de devoir la quitter trop tôt. J'aurais presque envie d'amener maintenant d'ailleurs ce qu'on appelle le dit, pas dans le sens où c'est le désir de séduire le parent de l'autre sexe, d'une autre, et de détruire l'autre. Et chez le petit garçon, c'est souvent assez affirmé, parce qu'effectivement, il a besoin de sa maman en tant qu'être affectif, en tant qu'être protecteur, en tant que matrice, et qu'il a peur de devoir la quitter. Et je rajouterai pour ça, alors, peut-être en devançant, mais en ce qui concerne le DIB, effectivement, il y a cet attachement. Ce qui est, je trouve très, très nocif aujourd'hui, c'est qu'on veut y mettre une connotation sexuelle à quelque chose qui est vraiment seulement de l'ordre affectif et presque de l'angoisse existentielle. On a besoin de sa mère et qu'on est enfant, on a besoin d'elle pour toute sa vie. Et c'est parce qu'on aurait été sûr de l'avoir pour toute sa vie qu'un jour on pourra se dire on peut la quitter parce qu'on aurait été rassuré. Mais dans le DIB, je trouve que c'est complètement délétère d'imaginer quoi que ce soit de l'ordre de la séduction sexuelle de la part de l'enfant. S'il y en a, c'est de la part de la mère. Et ça peut arriver parce qu'il y a des mères effectivement qui peuvent avoir des tendances incestueuses ou incestuelles. Mais ce n'est pas propre à cette relation-là.
Et je précise que dans la communauté scientifique, de nombreuses voix remettent en question l'universalité du concept du complexe d'Édipe. Par exemple, le pédopsychiatre David Bailly considère que c'est un modèle de développement de la personnalité qui est avant tout une construction intellectuelle. Nicole Prieur.
Oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est important la précision que vient d'amener Virginie parce que je crois qu'on se construit fille. Alors selon éventuellement des stéréotypes trop prégnants, mais on se construit fille en tous les cas sous le regard de son père et de sa mère aussi, et on se construit garçon. Et j'ai envie de dire, c'est plus notre identité sexuée plutôt que sexuel, qui va se mettre en marche et en œuvre devant le regard, entre autres, de sa mère. On a besoin... En tout cas, on sait qu'un enfant se construit dans le miroir de ses parents. C'est le regard que le parent va renvoyer à ce garçon ou à cette petite fille qui vont l'aider à avoir une certaine assise identitaire et se construire. Donc, mais je pense que ce qui se joue de très particulier, et effectivement, je reviens sur quelque chose de très existentiel, c'est que entre une mère et un fils, c'est que mutuellement, l'autre représente un mystère et représente un inconnu de soi. Il y a des choses que je ne pourrais jamais partager avec mon fils, avec mes petits-fils, même si je suis dans une très grande proximité. Il y a le fait qu'il n'est pas constitué comme moi et il y a des choses... Donc l'autre, et c'est en cela que c'est intéressant, je pense que c'est en cela que c'est riche, l'autre, le fris ou le garçon, c'est l'inconnu de soi et c'est un apprentissage de l'altérité finalement.
Sophie Galabru.
Oui, mais j'étais en train de penser à ça. C'est vrai que la relation mère-fils, c'est une relation en tout cas avec le sexe autre. Et donc avec l'autre, alors que la relation mère-fille est peut-être faite parfois à tort, sans doute, mais on peut le comprendre, d'identification. Et on a l'impression d'avoir dans cette relation peut-être qui va avoir une tendance plus facile à glisser vers la fusion, l'identification et la confusion, effectivement, avec cette identité sexuelle, alors que le garçon crée tout de suite avec sa mère une forme d'altérité qui peut-être est plus propice à moins de fusion d'ailleurs qu'avec la fille.
À la question « Les mères aimeraient-elles trop leurs fils ?», le psychiatre Alain Braconnier répond ceci, je le cite, « Contrairement à certaines idées reçues, je défends l'idée que l'amour d'une mère est source de bienfaits pour son fils. Certes, certaines peuvent étouffer leur garçon, mais cela me paraît plus rare qu'on ne le dit. » Qu'en pensez-vous, Nicole Prieur ?
Alors, là aussi, j'ai envie de dire peut-être qu'il faut remettre les choses, enfin, un peu plus précisément, quelque chose. Ce qui enferme un enfant, ce n'est pas forcément l'amour. C'est quelque chose de l'ordre de la loyauté. Vous savez, effectivement, c'est un sujet sur lequel qui m'intéresse beaucoup. Je veux dire, ce qui enferme un enfant et ce qui peut enfermer un garçon, et ça aussi, je l'ai constaté quand j'ai reçu des petits-enfants, des petits-garçons, ce sont effectivement les loyautés, c'est-à-dire, c'est ce que un petit garçon croit devoir faire pour être un bon fils. Donc, ça n'a rien à voir avec l'amour. Et combien de fois j'ai reçu des petits-garçons qui se disaient, quand par exemple, ils voyaient leur maman malheureuse ou que le couple se séparait, je veux être le bras armé de maman, je veux être ton chevalier servant. C'est-à-dire, il se donnait comme mission, alors la maman lui donnait ou elle ne lui donnait pas, on ne sait pas, mais en tous les cas, lui se donnait comme mission effectivement d'avoir à protéger sa mère, d'avoir à faire être agressive là où elle ne pouvait pas l'être. Et du coup, c'est ça qui empoisonne et qui enferme un être humain et plus dans ce qu'il doit être pour les autres, au lieu d'être pour lui.
Vous êtes d'accord avec ça, Sophie Galabru?
Oui, j'étais en train de penser au témoignage hier d'un de mes élèves, donc 17 ans, qui me dit dans un cours de philosophie en terminale, on parlait du devoir, il dit « on a un devoir en tant qu'enfant de rendre fiers ses parents ». Et je lui demandais d'où ça sortait, et comment il pouvait émettre cette idée-là, est-ce qu'elle venait de ses parents, de lui-même, il ne savait pas. Et c'est très intéressant parce que c'est, en fait, on rejoint ce que vous êtes en train de dire, la loyauté invisible, le fait qu'un enfant, et même un adolescent, peut s'infliger ou s'imposer un devoir, c'est-à-dire une tâche, une mission, pour avoir de l'amour, parce qu'en fait, il s'agissait de cela, et on en a parlé ensuite, c'est pour être aimé, alors que l'amour n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de rendre fiers ses parents pour être aimé.
Pour être aimé et pour être regardé. Pour exister sous le regard de l'autre. Vous êtes philosophe, je vois bien que dans la relation... parents-enfants, ce qui est primordial, en dehors de l'amour, mais l'amour ne fait pas tout. Combien de fois on rend malheureux nos enfants, même si on les aime. Donc, c'est vraiment la question de la reconnaissance. Et là, je suis vraiment dans la lignée de Ricoeur. J'ai vraiment la complexité de ce parcours de la reconnaissance. Pour moi, c'est ce qui vient vraiment faire lien et lien structurant, finalement.
Virginie Méglet.
Oui, dans cette relation en particulier, là, ce que j'ai envie de soutenir, c'est l'importance de la place du père. Parce qu'effectivement, quand un petit garçon a envie d'être fort auprès de sa mère, et en fait, c'est là où il a envie de prendre la place du père, ou du père présent dans la rivalité, ou du père absent dans la compensation. Et qu'une mère toute seule ne pourra pas forcément lui dire non, et c'est d'où l'importance dans cette relation particulière, effectivement, donc de la place du père.
Allez, dans un instant, nous reviendrons sur les conséquences psychologiques de l'amour et du manque d'amour des mères envers leurs fils. Ce sera juste après avoir écouté Musique de France Gall, un titre de 1977, 10h23. Sur France Inter. France Gall, interprété musique.
Putain, frappe, merde.
Dans ta chambre, je frappe. La salle de bain, c'est pour nous deux.
Grand bien vous fasse.
Tu sais quoi? Tu te masturbais?
Ali Rébéi.
Tu pensais à quoi?
À toi. Non, c'est bon, l'intimité et la pudeur, tu connais, là.
Oh là là.
Sur France Inter.
Comment fonctionne le lien mère-fils? C'est notre thème ce matin et beaucoup, beaucoup de réactions. Marie qui nous écrit ceci. Quelle est la différence entre l'amour mère-fils et mère-fille? Nicole Prieur, je rappelle que vous êtes thérapeute et philosophe.
Je dirais que la relation mère-fille, c'est une relation qui se joue quelque part entre complicité mais rivalité. Il y a une forme de rivalité, pas seulement due à l'Édipe, mais je veux dire, il y a une rivalité dans la manière d'être, etc. Et il n'y a pas ce mystère dont on parlait tout à l'heure. Hein. Donc il y a un risque justement de trop grande proximité, même identitaire. Je me revois dans ma fille se voit en moi, veut se construire en fonction de moi. Donc il y a une espèce de confusion qui est toujours un peu angoissante. Et ça se transforme entre rivalité, quelle sera la meilleure, quelle sera la plus séductrice, etc. Et évidemment, ça va ça, donc entre dans l'axe rivalité et complicité. On a vu qu'avec les garçons, il faut qu'ils se détachent de cette figure tellement importante. Mais là, l'évolution d'une relation mère-fille, quand ça se passe à peu près bien, c'est il y a cette rivalité au départ, et petit à petit, si surtout la fille devient mère aussi, il y a une véritable complicité. Et il y a entre mère et fille aussi ce qu'on a appelé, on n'a peut-être pas le temps d'en parler, une dette de vie. Mmh. Donc, quelque part, quand moi je deviens mère, je solde un peu les comptes avec ma mère, et du coup, il y a une possibilité de relation plus d'adulte à adulte à un moment donné.
Émilie qui nous écrit pourquoi faire une émission spécifiquement sur le lien mère-fils. Eh bien, nous avons fait par le passé des émissions sur le lien mère-fille. Allez, je vous propose d'écouter une relation assez complexe entre une mère et son fils.
Mais alors ?
Qu'est-ce qu'il y a ?
Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Tu aimes toute la région, tu demandes l'ambulance, et on arrive, t'es là, tu fumes ?
La fumée te dérange en plus ! C'est comme la sonnerie du téléphone, probablement. J'ai un éblouissement en pleine samaritaine. J'appelle mon fils, il me raccroche au nez de sa mère. Maintenant, il veut me critiquer que je suis pas mort. Tiens le téléphone. Pardon, Madame Santoni. Moi, je réponds. On sait jamais si c'est mon fils.
Marthe Villalonga et Guy Bedos, dont nous irons tous au paradis. Une petite précision, Marthe Villalonga et Guy Bedos, qui n'avaient que 2 ans de différence, en fait, hein, et qui jouent une mère et son fils. Et donc, Sandrine nous dit, c'est un sujet très douloureux pour ceux qui ont eu une relation perverse ou douloureuse. Vous êtes trop angélique. Virginie Méglé, votre regard sur cet exemple de relation complexe dans « Nous irons tous au paradis »,
voire
toxique.
Pardon, excusez-moi. Donc j'avais juste envie de dire d'abord, est-ce que dans la particularité de la relation mère-fille, hein, ce qui est aussi important, c'est qu'elles cherchent l'une et l'autre à se différencier. Enfin, la fille cherche à se différencier, tandis que là, effectivement, entre mère et fils, le fils effectivement se cherchera plus à se rapprocher. Et ce qu'on voit là dans la scène, ce que je peux entendre dans la scène là qui a été proposée, c'est comme une scène de ménage, hein, entre la scène de ménage et la dispute enfant. Et comment se disputer est une façon aussi de ne pas se quitter. Et là où c'est, si on peut dire, perverse. Alors moi, j'aime pas parler des personnes perverses. Je préfère parler de la perversité d'une relation, parce qu'effectivement, quand un fils est tout petit, il en est, pour dire, victime. Mais devenir fils et devenir homme, et c'est aussi apprendre à se soustraire éventuellement d'une relation qui peut être perverse. La perversité, c'est que dans la relation d'amour fils mère, il y a quelque chose qui se met au niveau de l'inconscient, hein. Soudain, le fils n'est plus un enfant dont on doit prendre soin. Il devient soit effectivement l'enfant avec lequel on se dispute inconsciemment, bien entendu, quand les parents n'ont pas grandi. Et souvent, la perversité est due au fait que les soi-disant adultes ne sont pas parvenus à grandir, donc ils continuent à exercer un pouvoir sur l'autre, et ici sur leur enfant.
Sophie Galabru, je rappelle que vous êtes philosophe, vous publiez Faire famille, une philosophie des liens, sur ce lien toxique entre le personnage de Marthe Villalonga et celui de Guy Bedos.
Oui, c'est un lien. Alors là, il n'y a absolument aucun mystère qui est maintenu entre les deux. Elle n'en veut pas. C'est d'ailleurs assez comique, mais c'est tragique aussi. Et c'est vrai qu'on a la sensation d'une femme qui utilise l'enfant comme une chose, comme une prolongation d'elle-même, comme un trophée, comme un homme qui doit... peut-être prendre la place ou le substitut d'un amant, d'un mari, et qui n'a pas le droit de vivre sa vie propre, de se développer pour lui-même, et qui donc en vient à la saturation la plus totale.
Beaucoup de mères se plaignent de l'ingratitude supposée ou réelle de leur fils, de certaines déceptions, avec en creux cette phrase « Après tout ce que j'ai fait pour lui », Nicole Prieur, sur ses dettes symboliques. Réel ou imaginaire.
Oui. Alors de toute façon, souvent les parents, que ce soit exagéré ou pas, ont le sentiment d'ingratitude. Hein. J'ai tendance à dire les parents donnent à des enfants sans compter, alors que les enfants comptent ce qu'ils n'ont pas reçu. Donc il y a toujours un sentiment d'ingratitude. Je pense qu'il ne faut pas. Alors dans ces relations un petit peu très abusives de mère, je pense qu'il faut il faut vraiment réintroduire aussi, comme Virginie tout à l'heure le faisait, il faut réintroduire le père. Hein. Souvent, cette relation abusive s'institue parce que justement, il n'y a pas de tiers entre le petit garçon ou l'homme, hein, qui restait petit garçon, et la maman. Et je pense qu'il ne faut pas négliger le poids sociétal. Le poids sociétal, c'est-à-dire que longtemps dans notre société européenne, et encore dans d'autres sociétés, la naissance d'un garçon est beaucoup plus valorisée que celle d'une fille. Et quelque part, effectivement, ça ouvre quelque part peut-être un peu la possibilité de prendre du pouvoir ou de vouloir, aliéner la présence de l'autre pour augmenter notre propre pouvoir. À être mère de garçon, c'est peut-être vivre une certaine fierté. J'ai mis au monde un garçon. Et du coup, sociétalement, ça a du poids. Et on verra peut-être aussi au niveau des stéréotypes, qu'est-ce que ça pose comme question, la relation mère-fils.
Sophie Galabru.
Oui, je suis absolument d'accord. C'est vrai que, et je me demande même si Simone de Beauvoir en parle pas dans le deuxième sexe, le fait pour une femme qui est aliénée, impuissante et elle-même dominée, de mettre au monde un enfant et surtout un fils, est parfois une manière de reprendre du pouvoir, de le recapter, d'abord par sa propre domination sur ses enfants et puis dans cette relation parfois abusive avec le fils. Ouais, absolument.
Virginie Meiglet.
Ce que je pense, il y a peut-être une mise en garde qu'on peut faire aujourd'hui, justement, surtout quand on revisite la psychanalyse pour le meilleur, c'est la question du surinvestissement des enfants. Pour une fille, c'est un certain surinvestissement. Pour les fils, c'est un peu particulier, c'est aussi. Mais s'il y a du surinvestissement, c'est aussi le fils que je n'ai pas été pour mon père, le garçon que je n'ai pas été pour ma mère. Et à partir de là, effectivement, on surinvestit l'enfant et on le charge d'une trop grande mission et qui, du coup, pervertit la relation. Quand je parle de mise en garde, c'est que on est à une époque où effectivement les enfants ont beaucoup de place et parfois trop de place, et que c'est en ce sens-là aussi où dans un second temps on dit oh, ils sont ingrats avec tout ce que j'ai été donné, mais finalement on fait que rejoindre ce qu'ils disaient déjà il y a 50 ans, je me suis sacrifiée pour toi. Hein, et donc là il y a peut-être ne pas oublier qu'un enfant c'est un enfant, qu'un enfant on l'a désiré et qu'il est par sens extrêmement dépendant de nous, et donc qu'il absorbe, et que ensuite on attend de lui un comportement alors qu'il n'a pas les moyens d'avoir un comportement de reconnaissance. Alors pourquoi pas la reconnaissance par ailleurs?
Vous êtes d'accord avec ça, Sophie Galabru?
Oui, ça fait partie du cœur du livre que j'ai écrit. C'est la comptabilité, la dette, le rapport dette-créance qui est complètement inversé, puisque souvent, en effet, des parents, surtout des mères, c'est quand même plus fréquent. Enfin, moi j'en ai plus entendu de la part des mères dire je me suis sacrifiée pour toi et donc tu as une dette envers moi. Et je pense que ce sont des techniques aussi d'emprise et d'abus de dire ça à un enfant, puisque le désir d'enfant doit créer à son endroit aussi une dette, une responsabilité qui est d'ailleurs reconnue par la loi.
Nicole Prieur.
Oui, tout à fait. Et si vous voulez, je pense que moi ce que j'ai essayé de démontrer, c'est que de toutes les manières, il faut accepter, nous sommes toutes en dette. Nous ne pourrons jamais, qu'on le veuille ou non, nous sommes tous des êtres en déloyauté, parce que nous ne pourrons jamais répondre aux attentes de la maman, du papa, de la grand-mère, etc. On ne sera jamais des enfants parfaits. Et je pense qu'effectivement, cette dette, il ne faut pas espérer l'effacer, elle est là. Il y a un écart entre ce que les autres voudraient que je sois et ce que je suis. Et du coup, cette dette, il faut surtout pouvoir l'interroger. À qui je dois vraiment quelque chose? Qu'est-ce que je dois? et oser dire cela, cette mission, je n'en veux pas, je vais d'abord être loyale aussi envers moi-même. Et donc c'est tout un équilibre au niveau des loyautés, mais effectivement cette dette, nous sommes, j'ai l'habitude de dire, on vient à peine de naître, que le bébé, en tant que bébé, on est déjà surendetté, parce qu'on a sur nos épaules des missions, mais impossibles avant d'avoir même respiré. Et tout, alors on en a besoin de ces missions pour se construire.
Mais certaines mères, Nicole Prieur, nous écrivent leur difficulté à vivre la distance que leur fils prend à un moment de leur relation. Ce sont des distances, des ruptures momentanées, indispensables. Il s'agit de trahisons nécessaires.
Tout à fait, tout à fait. C'est un moment où vraiment, d'abord, quelque chose... Oui, on parle
de pudeur. Parce que juste, certaines mères vivent cette distance comme une perte de l'amour de leur fils.
Non, c'est une perte, j'ai envie de dire, on revient encore sur la notion, c'est une perte existentielle. L'amour du garçon va peut-être s'estomper avec l'âge, mais j'ai envie de dire, là, c'est plutôt il prend une distance nécessaire et presque identitaire. Je ne veux plus être seulement le fils de ma maman. Je veux effectivement pouvoir me projeter avec mes copains, puisque c'est souvent l'adolescence, dans une future vie amoureuse, etc. Et donc, c'est une façon pour l'enfant, non pas de rejeter la mère, mais de la mettre à une certaine place, ce que Marthe, tout à l'heure dans le fil, n'arrivait pas, elle ne pouvait pas être à sa place. Et donc, c'est la régulation nécessaire de la distance, et c'est presque une preuve d'amour que d'imaginer que sa mère peut supporter ça.
Sophie Galabru.
Oui, mais c'est vrai, et je repensais, on avait la très belle citation de Romain Gary, avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais, mais il dit à la fin, j'aurais tellement espéré que ma mère ait quelqu'un dans sa vie, pour prendre une distance, parce que parfois il faut des tiers pour nous aider quand... Après, c'est vrai que l'enfant doit aussi avoir c'est une forme de courage et de liberté de mettre à distance, ce qu'il n'ose pas toujours faire, et parfois il y a des tiers qui aident aussi.
Bien sûr.
Et nous accueillons Nadia. Bonjour Nadia.
Bonjour.
Vous allez bien, Nadia ?
Mais je vais très bien,
bon.
Oui.
Alors, vous avez un fils qui a 56 ans, c'est ça ?
Absolument. Alors moi, je viens d'écouter la fin de l'émission et je me rends compte que le mien, il n'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il a 56 ans, il m'appelle tous les jours.
C'est bien.
À 8 heures, au moment où il sait que je vais prendre mon dîner. Mm-hmm. Et il me dit, quand je lui dis, mais écoute... tu sais, c'est l'heure où je dîne, tu le sais. Il me répond, ah oui, mais tu comprends, moi, c'est l'heure à laquelle je sors du travail. Donc, il faut quand même que tu puisses, que je puisse te parler. Mm. Bon, alors, contrairement à ce que j'entendais aussi, il a pris très vite son indépendance, il a fait des saisons, il était très autonome. Quand il s'est marié, il a aussi fait une rupture, comme vous dites, avec moi. Ça me faisait des vacances, très honnêtement.
Mais rassurez-moi, vous l'aimez, votre fils.
Ah, mais je l'adore. Ah. Je l'adore. Mais vous savez, il est un peu pareil avec sa sœur.
Ah,
hein.
D'accord.
Elle s'en plaint aussi, qu'il l'appelle très souvent. Je crois qu'il a un grand sens de la famille, mais c'est un peu lourd à porter, on va dire.
Qu'est-ce qui est lourd à porter, Nadia ? Qu'est-ce qui est lourd, au fond ?
Ah ben, qu'il me raconte toujours la même chose à 8 heures le soir.
Ouais.
C'est-à-dire sa journée, comment il vit les choses, qu'il n'est pas très bien. Alors, je reconnais que, quelque part, c'est quelqu'un qui est certainement très sensible et qui souffre un peu... de solitude, bien qu'il soit avec quelqu'un aussi. Mais voilà, alors je l'écoute patiemment et je lui dis, mais tu sais, j'essaye de lui donner les conseils que je peux, mais je ne suis pas toujours très bien placée pour lui donner
les conseils. Nadia, vous savez que beaucoup de mères rêveraient que leur fils appelle tous les jours à 20h au moment du dîner. Nicole Prieur sur ce joli témoignage de Nadia.
Moi, je pense que j'ai peut-être eu la chance d'avoir 3 garçons et plusieurs petits-enfants. Alors, mes garçons m'appelaient pour m'occuper, ça change, hein, pour que je puisse m'occuper de leurs propres enfants. Mais j'ai envie de dire, par chance, ils ne m'appelaient pas tous les jours, parce que j'étais quand même assez occupée. Mais j'ai envie de dire, là aussi, la relation, je pense que les garçons ont peut-être tendance à croire que leurs parents ou leurs mères peut-être disponibles comme elles l'ont été tout le temps. Quoi.
C'est pas faux. Sophie Galabru.
Oui, je sais pas, c'est délicat parce qu'on ne connaît pas non plus complètement le fils dont on nous parle, mais on a l'impression de quelqu'un qui a besoin du secours de sa mère, comme s'il ne pouvait pas le trouver ailleurs ou en lui-même.
Oui.
Et peut-être qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus.
Votre regard de psychanalyste, Virginie Méglet.
Moi, je pense que tous les garçons aimeraient pouvoir prendre leur envol sans perdre l'amour. Que l'amour, en principe, évolue avec le temps. C'est pour ça que quand un garçon va se détacher de sa mère, c'est parce que l'amour doit se transformer. Et que parfois, dans certaines situations, la peur de perdre est telle qu'on reste attaché comme un tout petit enfant. Alors, c'est très joli. Effectivement, en tant que mère, on aimerait que nos enfants nous appellent tous les jours. Pourquoi pas? Mais oui et non. En même temps, il y a peut-être là quelque chose, mais qui n'est pas à remettre en cause. Il n'y a pas de jugement. Mais qu'en effet, ça dit bien la difficulté à se détacher, à se différencier de sa mère.
Merci beaucoup, Nadia, de nous avoir appelé. Béatrice nous demande de quelle façon une mère absente, froide ou toxique peut-elle handicaper la construction de son garçon, Nicole Prieur.
J'ai envie de dire, ça peut handicaper à un certain moment, je veux dire, mais ensuite, heureusement, on peut toujours compenser les manques que l'on a vécu, hein, que l'on a traversé. Mais c'est vrai que ça peut constituer un manque d'assise identitaire, un sentiment finalement de ne pas suffisamment compter pour les autres, une fragilité un petit peu à ce niveau-là, mais encore une fois, heureusement qu'il y a des psys et des bons livres qui peuvent aider justement à restructurer un petit peu, à compenser cette perte.
Sophie Galabru.
Je réfléchissais, il me semble que c'est Freud qui disait, bon c'était peut-être un peu genré, mais que l'amour d'une mère est essentiel pour donner de la confiance en soi à un enfant. Moi je crois que c'est au moins un des deux parents dont on a besoin, mais en tout cas si on repart sur les mères, c'est clair qu'une mère qui donne de l'amour aide à donner de l'estime de soi, de la confiance aussi dans ses actions et ses projets, et c'est fondamental et ça peut créer une faille terrible pour quelqu'un qui n'a pas reçu ça et qui ne quelqu'un qui n'a pas reçu la reconnaissance et l'estime de sa mère.
Jean nous demande si une mère peut aimer tous ses fils de la même manière. Je pense être le fils préféré, mais mes frères pensent l'être aussi.
Ah oui, tout à fait. Alors ça, c'était un cas typique des consultations d'enfants que je pouvais avoir quand ils parlaient de jalousie. Quand tout se passe bien, à peu près bien, hein, on peut se sentir tous les préférés. Moi, je dois dire que j'adorais, je disais à mes enfants quand ils étaient tout petits, je vous aime pour des choses différentes, et c'est comme les doigts de la main, j'ai besoin de vous trois pour effectivement pouvoir utiliser, donc j'ai besoin de vos différences et de votre complémentarité.
Virginie Méglet, une mère aime-t-elle un aîné, un cadet, un Benjamin de la même manière ?
Non. Et c'est. Ben, cela dit, je pense que c'est dans notre humanité, peut-être dans notre animalité, on voudrait tous avoir la place du préféré, parce que la place, ma place à moi et rien qu'à moi, c'est le ventre de maman. Et de toute façon, il y a celui qui me l'a pris avant ou après. Enfin, je veux dire, même quand un enfant naît, il y a déjà un aîné. Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Donc effectivement, c'est vraiment de cet ordre-là. Donc ça, accepter qu'on ait besoin de la préférence. Par contre, moi, j'ai vraiment envie d'inviter les parents à ne pas cultiver ce besoin de préférence parce que c'est délétère aussi bien pour les autres enfants que pour le préféré. Mais cela dit, on a besoin de se sentir très souvent le préféré et on peut avoir des besoins aussi de signes de reconnaissance et de gratitude qui, d'une façon un peu fictive, nous en convainquent. Hein, ça recharge notre estime de nous.
Nicole Prieur.
Oui, moi j'aimerais revenir sur quelque chose, je l'ai noté d'ailleurs pour pas l'oublier, sur le poids sociétal quand même de cette relation. Il y a quelque chose qui pèse de nos stéréotypes sur la relation parent mère-fils. On a eu beaucoup d'études qui ont confirmé que, en tant que mère, malgré nous, on n'a pas les mêmes positions avec les petits garçons qu'avec les petites filles. Avec les petits garçons, j'ai envie de dire, à notre insu, on va davantage les protéger, puisqu'on parle beaucoup de cette relation protectrice, on va avoir tendance à davantage les protéger, et on va demander aux petites filles de se débrouiller toutes seules. Hein, j'ai pu voir de combien de fois, effectivement, des garçons à qui on va aider et que l'on va aider pour attacher leurs souliers, et les petites filles, on sait qu'elles vont pouvoir se débrouiller. Voilà, donc n'oublions pas que en tant que mère de garçon, et je crois que j'ai essayé d'être vigilante à ce niveau-là, faisons attention, soyons vigilants aux stéréotypes que l'on transmet. J'ai avec fierté offert des poupées à mes garçons quand ils étaient petits. Ils les ont décortiquées, mais ils les ont eues.
Vous êtes très sensible à cette question, Sophie. Sophie Guérin-Brul.
Oui, c'est vrai que c'est une mission politique d'être parent et aussi donc d'être mère d'un fils, c'est-à-dire d'un être qui va occuper une position genrée, culturellement très construite et qui peut affirmer sa domination ou chercher une forme d'égalité avec les autres, avec les femmes. Et même si la mère n'a pas tout le poids et la charge mentale sur ses épaules de cette éducation féministe, parce que les pères peuvent y participer ou les conjoints, je pense qu'en effet une mère devrait prêter cette attention à cela dans la façon qu'elle a d'élever son enfant, son fils.
Jocelyne nous écrit « Mon frère ne faisait rien à la maison, contrairement à mes sœurs et moi. Avec mon mari, on a élevé nos filles comme des garçons. Je n'ai aucun regret de ne pas avoir eu de fils. Trop compliqué. Allez, Julien Bisson et sa chronique Ma vie de parent.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas.
Salut. Merde.
Julien Bisson.
Oui, eh bien écoutez, cette thématique du jour m'inspire beaucoup de choses, comme toujours, au point de me demander d'ailleurs par où commencer. J'étais un temps tenté de vous parler de ma propre expérience de la relation mère-fils, dans le rôle du fils, donc, de vous parler de la façon dont celle-ci influe sur nos destinées, façonne nos futures relations sentimentales, mais je me suis dit que ce serait bizarre de faire ça en présence d'une psychanalyste et d'une thérapeute, j'aurais l'impression de leur devoir un peu d'argent en sortant du studio. Donc non, pour une fois, je ne vous parlerai pas de moi, ça nous fera des vacances à tous. Je ne vous parlerai pas non plus de mon fils, qui a une relation avec sa mère totalement saine. Enfin saine, du moins que j'ai brisé tout net son élan quand à l'âge de 4 ans, il avait débarqué en affirmant tout de go. À partir de maintenant, je vais dormir avec maman et toi papa, tu vas dormir dans mon lit. Que déni, retourne vite fait dans ta chambre petite Édipe. Depuis, ça va mieux. Il a même dit ce week-end qu'il préférait son papa. Ce qui n'a pas de sens, hein. L'amour parental n'est pas une compétition quand bien même je serais en train de la gagner. Non, il faut dire que de ce point de vue, on part de loin quand on est père. Depuis la grossesse jusqu'au premier mois d'allaitement, quand on est père, on a souvent une place assez réduite dans le triangle de la parentalité. En caricaturant, on peut se sentir dans les débuts comme une sorte de gros animal domestique au sein du foyer familial, une créature poilue, câline et bienveillante, mais tout de même assez accessoire vis-à-vis de la relation qui unit la mère à son enfant, fille ou garçon.
Alors comment trouver sa place au milieu de cette relation ?
Et là, c'est une question qui me paraît importante parce qu'elle dit quelque chose, je crois, de la conception profonde qu'on a de son rôle paternel. Est-ce qu'on s'impose en se démarquant de la mère ou est-ce qu'on s'inscrit dans son sillage ? Dans son autobiographie Les mots, Jean-Paul Sartre estime que, n'ayant pas eu de père, il avait toutes les libertés. Comme si cette absence avait été une chance, comme si le père devait nécessairement être celui qui portait les interdits, les frustrations, celui qui devait briser la relation d'amour entre mère et fils pour lui permettre d'entrer dans le monde. Et j'imagine qu'en effet, cela a dû être le modèle dominant pendant des siècles, avec un pater familias à la fois absent et tout-puissant, et qui laissait à la mère l'exclusivité de la dimension aimante et affectueuse. Mais alors qu'est-ce qui change dans une société qui aspire à l'égalité homme-femme ? Est-ce que ça signifie que les pères sont appelés à devenir des mères comme les autres, et inversement ? Autrement dit, est-ce qu'on peut penser les relations entre parents et enfants en dehors d'un cadre genré ? À cette question, mon premier mouvement serait de répondre oui, naturellement oui. L'exemple des couples de parents homosexuels montre bien qu'il est possible de construire ces relations hors du schéma traditionnel, tout comme la hausse des gardes alternées, après séparation, chamboule la division habituelle des rôles. Les mères ne sont plus cantonnées à la dimension câline et sécurisante du cocon domestique, les pères peuvent s'épanouir dans une relation aimante et confiante, sans forcément devoir incarner avec froideur l'ordre et la loi.
Mais Julien, ça signifie qu'il y aurait une confusion possible entre père et mère ?
C'est sans doute plus compliqué que cela. Le schéma traditionnel est vieux de milliers d'années, on ne va pas tout réinventer en quelques décennies. Mais je suis frappé surtout par la façon dont cette division père-mère s'incarne dans des choses les plus anodines. La littérature scientifique montre par exemple qu'en général, les pères et les mères ne vont pas changer leurs enfants de la même façon. Les premiers en profitent pour travailler la motricité quand les secondes chantonnent. Ils ne vont pas mettre l'accent sur les mêmes personnages quand ils lisent des contes. En lisant Le Petit Chaperon Rouge, la mère va parler du Petit Chaperon Rouge, le père des chasseurs. Ils ne jouent pas non plus pareil avec leur progéniture. Les pères laissent moins volontiers leurs garçons gagner que leur mère. Ce faisant, on répète sans le savoir des comportements anciens qui amènent à différencier les rôles parentaux. Je vois bien comment chez moi, malgré tous nos discours égalitaires, mon fils sait qu'il vaut mieux se plaindre à sa mère s'il a mal quelque part, mais que c'est avec moi qu'il ira plus volontiers faire du foot au square. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ? Est-ce qu'il est important de conserver des figures différentes et complémentaires ? Je laisse aux psy autour de cette table le soin de répondre. Et je conseille à tous les autres de voir ou revoir Kramer contre Kramer, qui va bientôt fêter ses 45 ans et qui reste l'un des films les plus justes sur le renversement des assignations paternelles et maternelles.
Nicole Prieur, vous avez pris beaucoup de notes pendant la chronique.
Oui, parce qu'effectivement, vous rejoignez complètement toutes les questions qu'on peut se poser et qui sont importantes à se poser. C'est finalement, c'est comment être soi vis-à-vis d'un enfant. Donc, comment affirmer sa différence en dehors des standards genrés. Alors, bien sûr, ils vont nous rattraper forcément. On peut pas se défaire de millénaires comme ça, de cette manière-là. J'ai envie de dire, mais il faut se donner la liberté d'y adhérer à certains. Et puis de jeter aux orties les autres. Enfin, je veux dire. Mais par contre, ce que vous appuyez, et je trouve que ça rejoint tout à fait mon expérience aussi, c'est la position des jeunes pères, ce que j'appelle les nouveaux pères, qui osent ne plus être les substituts maternels. Vous osez être des pères différents, qui assumez de jouer d'une certaine manière, etc. Et je pense que les transformations au niveau des genres et des standards genrés trop enfermants, on peut accepter certains, trop enfermants, ça viendra par ces jeunes pères qui revendiquent un amour dit maternel, mais qui sont des animaux envers leurs enfants, enfin au sens noble du terme, comme nous on a pu l'être. Et je trouve, bravo, continuez.
Ma vie de parent de Julien Bisson à podcaster sur l'appli France Inter. Allez, on continue à s'intéresser à cette histoire d'amour sans fin, qui est la relation mère-fils. Ce sera juste après avoir écouté Sanfa qui interprète Only.
Still here, only God knows why. Still here, only God knows why. Dreams of a beach with a house behind. Deep thought on the speed of life. Sun's in perfect reach each time. Then I wake up clean to a different light. And I see problems jump and hide. I can't see trapdoors in my mind. Blurry signs that I can't define. Like predicting movements ahead of time. Projectiles coming from the side. Projectiles coming for my life. War zone when I close my eyes. La la la, his fingers in my ears. I was not trying to hear. I'm moving on, faith and faith. Only desires crush me numb. I would chase and then some. From love I would run. Like it's just here to disown me. That's why I keep my distance. Even if I miss it. Why am I the wisdom to pick up when it phones me? Take my body for a walk. Call somebody just to talk. Take a mic and press record and speak the truth. Only, 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 only you. Only, 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 only you. I was chasing highs up on diagonal. Started looking down like where the middle go. I've been on this grind like it's gonna break my fall. Career risen pothole like where my loved ones go. Obedient, blindly, I trust you and you know. I don't wanna judge, but I need to save my soul. I question your priorities, isn't in this boat. Wired to a system, born into a code. Has a way of keeping self-esteem on the low. Betting on myself like, how wide is this hole? Betting on myself like, how wide is this hole? You tell me it's the wrong choice, you tell me it's the wrong choice, but I... La la la, his fingers in my ears, I was not...
Sans fin, interprété Only.
Maman, les eaux mouillettes.
Grand bien vous fasse.
Ok, ok, lapin des Alpes.
Maman, lapin des Alpes.
Ali Rébéi.
J'ai 20 ans, arrête un peu.
19. Bon, mon petit loulou. Bon, mange tes œufs mouillettes.
Sur France Inter.
Comment le lien mère-fils nous influence toute la vie, c'est notre thème ce matin. Tiens, écoutons une note vocale déposée par Marie.
Bonjour à toute l'équipe, je m'appelle Marie, j'ai 45 ans et j'ai deux enfants, dont un garçon qui a 15 ans, qui s'appelle Martin. Et votre émission me fait réagir car ce matin... Je ne travaillais pas et mon fils de 15 ans, avec qui j'ai une excellente relation, m'a laissé un petit mot sur le frigo, lequel disait « Bonne journée maman de repos, profites-en bien, je t'aime fort, ton fils Martin ». Ben voilà, tout est dit sur ma relation avec mon fils, que je regarde grandir en étant un super jeune homme qui va devenir, je pense, un homme de grande qualité. Merci pour vos émissions, au revoir.
Merci Marie pour votre note vocale. Thomas nous demande, pour conclure cette émission, s'il existe une relation mère-fils idéale. Et si oui, à quoi devrait-elle ressembler? Virginie Méglet, je rappelle que vous êtes psychanalyste.
Bah, disons que l'idéal, c'est ce vers quoi longtemps. Donc, je pense pas qu'il existe de relation idéale, mais par contre, tendre vers un idéal. Et on pourrait dire que cet idéal, c'est que l'amour soit préservé entre mère et fils, qu'une mère accepte que cet amour puisse évoluer, que c'est ce qui se passe dans les volontés du fils de se détacher. Il remet pas en question l'amour, mais il remet en question les manifestations de l'amour. Donc, l'idéal, c'est de penser que l'amour doit être maintenu à tout prix, mais accepter aussi que ça puisse passer par des crises qui, dans le meilleur des cas, vont permettre réellement la différenciation de la mère et de l'enfant.
Sophie Galabru, philosophe.
Oui, moi je dirais que c'est que l'ambivalence de l'amour puisse avoir lieu, c'est-à-dire que l'amour puisse parfois donner place, d'un terme qui fait peur, mais à la haine, c'est-à-dire au rejet, à la distance, à la régulation, au conflit, que les libertés puissent s'affronter ensemble et se retrouver aussi.
Nicole Prieur, thérapeute,
oui,
et philosophe.
Moi je pense que c'est quelque chose de l'ordre vraiment du respect de la différence, c'est-à-dire accepter que son enfant, son fils, ne soit pas celui que j'ai envie d'être, que j'ai envie qu'il soit. Donc effectivement, accepter qu'il soit différent de mes propres désirs. Mais j'ai envie de dire, en tant que mère de fils, quand même, veiller à continuer à faire des œufs mouillettes, parce que c'est certain, et ce sont les meilleurs œufs qu'il ait pu manger.
Tiens, beaucoup de questions qui vont dans le même sens pour conclure vraiment cette émission. Est-ce que la relation à sa mère marque de son empreinte, les relations ultérieures et les relations sentimentales notamment, Nicole Prieur?
Certainement, et ce n'est pas pour rien qu'il y a quand même cette une tendance à une rivalité entre belle-fille et belle-mère.
La fameuse rivalité.
Elle est là.
Quelle est l'essence de cette rivalité?
C'est parce qu'effectivement, la jeune femme qui vient dans la vie de son amoureux sent bien ce lien très particulier à sa mère, et il va falloir qu'elle soit suffisamment présente pour transformer à la fois l'amour et aussi les loyautés. Parce que là aussi, faire couple, c'est transformer ses loyautés par rapport à sa famille d'origine.
Sophie Galabru.
Et que les mouillettes de sa femme soient considérées comme meilleures que celles de sa mère, c'est un dépassement réussi.
Exactement.
Oui, mais c'est pas facile.
C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup Nicole Prieur d'être venue dans cette émission. Merci Virginie Méglet. Je cite votre tout dernier livre publié chez Erol, Se libérer du sentiment d'imposture. Merci beaucoup Sophie Galabru. Faire famille, c'est publié chez Alary. Édition, une émission à podcaster et à partager sur l'appli France Inter. Et demain, comment le maquillage raconte énormément de choses sur nous et sur notre société.
Les éditions Radio France présentent 10 histoires de vie, de souffrance et d'amour, un livre du docteur Nasio.
Je vous raconte les moments les plus intenses que j'ai vécus avec mes patients. En parlant d'eux, je parle de vous, je parle de nous.